très bel après-midi sur France Culture. Les programmes continuent avec Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Les Pieds sur Terre, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
À la suite de la diffusion d'un reportage de Rémi Dibovski-Douatte sur le maire de Pont-Sainte-Maxence, il y a quelques années, qui coupait le RSA aux alcooliques et alpaguait des SDF en les accusant d'être des feignants, un auditeur et internaute m'interpellait sur Twitter. Dites Sonia Kronlund, vous êtes réac, vous ne mettez même pas le synopsis de vos émissions en écriture inclusive, et pour le reste, bravo à ce maire. Ce message me posait alors trois problèmes. Le premier, c'est qu'il adresse des félicitations au maire et que ce n'était pas exactement la visée du reportage. En même temps, je me dis, soyons heureux d'être écoutés de toutes et tous. Le deuxième est plus gênant. Le tweet en question contient plusieurs fautes d'orthographe et de ponctuation. En 140 caractères, il faut le faire. Même sur Twitter, les fautes d'orthographe restent stigmatisantes, elles donnent des informations sur celui qui écrit, elles permettent de faire une distinction, comme on dit. Sur le coup, ça m'ennuie de le remarquer, mais je ne peux pas m'en empêcher. Je sais que l'orthographe sert à ça, à opérer une ségrégation dont témoigne l'exercice bien connu, sadique et jouissif pour certains, la dictée, une passion française dont nous parlons aujourd'hui. La dysorthographie, on le constate chaque jour, est un facteur d'échec scolaire, social, une humiliation nationale. Une candidature pleine de fautes, tout comme un SMS ou un tweet avec des fautes d'orthographe, ça dit quelque chose, parfois de rédhibitoire, même si on trouve ça injuste, et qu'en théorie, on s'efforce de ne pas faire ce genre de distinction. C'est difficile de s'en abstraire. Je suis donc en pleine contradiction une deuxième fois. Le troisième problème que me pose ce message, évidemment, c'est la question de savoir si je ne devrais pas et si nous ne devrions pas tous et toutes écrire de manière inclusive les synopsis, les dictées, les livres. Les éditions Hatier, par exemple, viennent de publier un manuel scolaire dans lequel le masculin ne l'emporte jamais sur le féminin. Il y a plusieurs stratégies orthographiques pour ça. On écrira par exemple les droits humains et pas les droits de l'homme, les maçonnes et les maçons au lieu des maçons, ou encore les électeurs.ris.s au lieu de les électeurs. À la réflexion, je n'ai trouvé aucun argument contre l'écriture inclusive. Je suis donc d'accord avec cet auditeur. L'orthographe, c'est sacré, c'est le reflet profond de notre société, de notre culture. L'écriture inclusive pour toutes et tous, ce sera une grande avancée. Demain, je m'y mets. En attendant, tout de suite, trois histoires de dictées, plus ou moins traumatisantes, et quelques réflexions sur la place de l'orthographe dans notre pays, par Delphine Dilly.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe, et c'est comme ça que les choses arrivent.
Je m'appelle Alex, je vais avoir 40 ans bientôt. Je suis né en Bulgarie, j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 14 ans. Après la chute du mur, mon père a essayé de fuir, parce qu'il avait des ennuis politiques. Donc il a fui et il a fini son long voyage en France, où il a commencé à travailler. Il était musicien classique. J'étudiais la musique depuis quelques années. Mon père avait investi pas mal en cours particuliers. Je n'ai pas eu l'examen d'entrée à l'École nationale de musique en Bulgarie. Donc comme je n'avais pas travaillé d'autres matières ou je m'étais pas dirigé vers une autre section de lycée chez nous, je me retrouvais sans avenir à 13 ans en sortant du collège bulgare. Donc mon père a décidé de me faire venir en France pour que je puisse étudier la musique et m'en sortir. Parce que j'avais pas d'avenir là-bas. Alors c'était pas le paradis la Bulgarie à l'époque, mais malgré tout il y avait un vent de liberté qui soufflait là-bas. L'espèce d'espoir qu'il y avait à l'époque faisait que la vie était plus douce, même si c'était toujours la galère. On s'imaginait déjà vivre dans une démocratie. On venait d'avoir notre premier magnétoscope. Ça me peinait de partir alors qu'on voulait en avoir un depuis 10 ans, 15 ans. on avait enfin le droit d'avoir des téléphones à la maison. On téléphonait dans des... Il y avait des cabines partout, dans les rues. Donc ça, c'était pareil, c'était une évolution capitaliste qui me plaisait bien, mais je pouvais pas l'utiliser parce que je devais partir à l'étranger. La France, je l'avais vue l'été d'avant, parce que mon père nous avait fait venir avec ma sœur un mois en vacances à Paris. Donc on avait passé un mois à halluciner, à découvrir le monde occidental, qui pour nous était une espèce de rêve, mais on se l'imaginait même pas comme ça en fait. Les deux dernières années en Bulgarie, c'était assez dur, parce qu'ils avaient réinstauré un système de rations avec des tickets, comme pendant la guerre. Donc on avait un yaourt par semaine, un pain, enfin c'était très très limité. Il n'y avait pas de viande, pas de chocolat. Il y avait des coupures d'électricité régulièrement. Voilà, c'était assez austère. Et donc on est arrivé à Paris, on s'est retrouvé, mon père habitait à la Bastille à l'époque, et il nous a tout de suite envoyé faire des courses à Franprix. Et là, avec ma sœur, on est resté, il a dû venir nous chercher. Parce qu'on est resté 2-3 heures, je crois, dedans, à étudier tous les produits et à halluciner sur la variété de chocolat, du yaourt, de fromage, de tout. Donc c'était en 92. Je suis arrivé en France à l'âge de 14 ans, en car. Ça a été un voyage de 48 heures, il me semble, qui traversait la Serbie à l'époque. Donc j'ai rejoint mon père qui habitait en France déjà depuis 2-3 ans. Porte de Clichy dans une barre d'immeubles au-dessus du périphérique. Mais il n'y avait pas de place dans le collège dans lequel je devais y aller, donc j'ai dû attendre quasiment un an pour être scolarisé. Il y avait tellement de changements dans ma vie que j'étais vraiment perdu, triste. Je devais re-rencontrer mon père, à qui j'avais pas vécu depuis très longtemps. Même s'il me manquait, que j'avais envie d'être avec lui. Mais je voyais pas comment j'arriverais à parler cette langue. C'était inimaginable, je ne comprenais rien. C'était vraiment tellement loin de tout ce que j'avais entendu. Mais le français, c'était impossible. Il n'y avait aucun mot sur lequel je pouvais m'accrocher. Comme j'allais pas à l'école, je restais souvent à la maison pour travailler à mon instrument et je regardais beaucoup la télé. C'était mon contact, c'était la télé, c'était les jeux télé toute la journée. Et le truc qui m'obsédait, que je n'arrivais pas à comprendre, c'était par exemple la première phrase des présentateurs au journal télévisé qui disait « Bonsoir à tous ». Et moi, je cherchais dans mon dico ce que ça voulait dire « Ratus ». Bonsoir, j'avais compris que c'était une contraction, mais ratus, ça m'a pris des années à comprendre. 2 années à interroger mon père qui boutait en touche parce qu'il savait pas non plus qu'il parlait assez mal le français, qui malheureusement pouvait pas m'aider. Arrivé à la rentrée, on m'a mis d'office en classe de 4e. J'avais déjà 15 ans. Donc j'avais déjà 2 ans de retard par rapport aux autres, mais j'avais 2 ans de plus. Donc 2 ans de plus, ça fait 2 têtes de plus, ça fait du duvet. Donc les 2-3 premières semaines de cours, je suis passé un peu inaperçu. Je faisais pas d'histoire, j'étais au fond de la classe. Je pense que les profs, ils avaient pas vraiment lu mon dossier, donc ils savaient pas que je parlais pas français. Et les cours de maths, ça allait, j'arrivais à comprendre. L'anglais, je me débrouillais. En sport, ça allait. Donc les matières qui demandaient pas une connaissance du français, je m'en sortais. Mais le reste, je comprenais absolument rien. Je comprenais rien, en fait. Mais il est arrivé ce qui devait arriver. La première dictée en français. Et là, c'était l'angoisse la plus totale. Déjà parce que je savais pas qu'en France, à 14-15 ans, on faisait encore des dictées. En Bulgarie... Les dictées s'arrêtaient à 8-9 ans, vu que c'est une langue phonétique. Tous les enfants savent écrire parfaitement à 8-9 ans. C'est déjà... On passe à autre chose. Après, on fait des lectures de textes, des analyses. Donc la prof nous demande de sortir une feuille et de faire un trait à la marge. Déjà, j'ai pas compris à la marge. Et j'ai essayé de copier un peu à gauche et à droite, et comme je voyais pas pareil, j'ai mis un trait rouge au milieu. Je me souviens parfaitement de la salle de classe, du siège qui avait autour de moi. D'ailleurs, c'est des gens que je vois toujours aujourd'hui, qui étaient un peu des cancres à l'époque. Donc je me suis dit que j'allais copier sur eux et que le reste, j'allais le faire en phonétique, parce que avec un peu de chance, il doit y avoir des mots, j'arriverai à retranscrire.
Des moutons étaient en sûreté dans un parc. Des moutons. Moutons. Voyons, mon enfant, faites un effort. Je dis moutons. Était une. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas qu'un mouton. Il y avait plusieurs moutons.
Donc le lendemain, elle a commencé à rendre les copies et elle m'a pas rendu la mienne. Elle a rien dit. J'ai compris qu'il y avait un souci. Donc c'était un mélange d'angoisse, de peur et en même temps j'étais content parce que j'étais censé intégrer une classe de non-francophones, d'enfants étrangers. Mais en fait, on m'a mis dans une classe tout à fait normale et en plus, comme on étudiait la musique l'après-midi, on allait en cours que le matin. Donc les profs avaient pas vraiment le temps de se rendre compte que je parlais pas. Et j'avais pas vraiment le temps non plus d'apprendre, parce que ça allait trop vite. Donc j'étais un petit peu content qu'elle découvre mon secret. Et je me souviens très bien de la fin du cours, où tout le monde sortait, et que moi, m'a demandé de rester. Et elle s'est mise à me parler très très lentement, à poser des questions. Alexandre, est-ce que vous me comprenez? Je disais oui, non. Donc je me souviens qu'elle a dit bon, on arrête, on va voir le proviseur. Et c'est comme ça que mon secret a été dévoilé au collège. Ce qui a été une bonne chose, puisqu'à partir de ce moment-là, on m'a dispensé de cours de musique, d'histoire, enfin toutes les matières qui demandaient d'écrire et de parler en français. Vu que je comprenais rien, ça sert à rien que j'y aille. Et pendant ce temps-là, j'allais à la bibliothèque et on m'a envoyé un professeur pour m'aider à avancer en français. Et juste avant la fin de l'année, il y a eu un déclic. Je pense que j'avais emmagasiné suffisamment d'informations et j'ai commencé à faire des phrases et j'ai commencé à parler. Et puis c'est le robinet s'est ouvert d'un coup et là, ils n'arrivaient plus à me faire taire en fait. Je racontais tout et n'importe quoi, je lisais toutes les inscriptions qu'il y avait sur les pots de colle, sur les trousses, je lisais les trousses de tout le monde, tout le monde se marrait. Et ils ont décidé de me laisser passer en troisième. Et en troisième, on a changé de prof et on est tombé sur un prof très rigoureux et très difficile. Et là, les dictées, pareil, c'était une horreur. Les notes, c'était moins 20, moins 30, puisque c'était un point par faute. Et mon objectif, c'était d'atteindre le zéro. Et c'était un peu la blague à chaque cours. C'était, est-ce qu'il va réussir à atteindre le zéro avant la fin de l'année? Et à moitié en trichant, à moitié en comprenant, j'ai réussi à avoir un 3, je pense. J'avais eu des applaudissements, je me souviens, par toute la classe en fin d'année pour mon 3 en français. Mais pour le reste, j'arrivais à me débrouiller quand même en histoire, toutes les matières écrites, histoire, bio... J'arrivais à écrire et j'ai raté mon brevet. On m'a laissé passer en seconde. En fait, ce que je faisais, c'est qu'à l'époque, je me faisais 10 mots par jour que je connaissais pas. J'écrivais des pages et des pages avec le même mot jusqu'à ce que ça... C'était devenu machinal, j'apprenais même pas, en fait, ça rentrait dans ma tête. En fin de première, il y avait quand même l'épreuve du bac français. Le jour de l'examen, à l'oral, je me suis retrouvé complètement bloqué. J'arrivais pas à sortir un mot de ma bouche. J'ai rien compris à l'analyse de texte. Donc je suis parti avec un handicap de moins, je sais pas, 20 ou 30 points, parce que j'avais eu des notes minables. Bon, j'ai fini par avoir mon bac, un bac musical. Mais La revanche que j'ai eue, c'est qu'en philo, j'ai eu quand même 16. C'était ma revanche personnelle sur le français.
Tout le monde a écrit son nom, son prénom sur la feuille. Tous les enfants qui sont en primaire, d'écrire le chiffre numéro 1 sur la feuille. En gros, le chiffre numéro 1.
Alors la dictée, je sais qu'il y en a plus de 100, 110 environ. On est à Cergy, place de l'Hôtel de Ville. Et voilà, et le temps est moyen, mais ils sont quand même venus, ils ont répondu présent. Donc l'essentiel est là. Il y a Rachid qui va se préparer pour nous lire un texte. Et tout le monde se prête au jeu.
Primaire numéro 1, collégien numéro 2, lycéen numéro 3, les adultes et tout le reste du monde numéro 4. Je vous explique. Monsieur l'écrivain Rachid Santaki va lire la dictée. Quand vous n'avez pas entendu un mot, ou vous allez tout lentement, laissez de l'espace, il répétera. Et même à la fin de la dictée, quand c'est fini, il va répéter. Bon, bon courage à tout le monde et merci encore.
France Culture, les pieds sur terre.
C'était en CE1 avec ma prof, Madame Poupon. Et en fait, on faisait des dictées et moi j'avais toujours en dessous de zéro. C'est-à-dire, elle comptait toutes les fautes. Et moi j'étais toujours à moins 10, moins 5. Et une fois, j'ai eu zéro. Mais zéro tout pile, pas moins 1, pas moins 2, pas moins 3. Et moi j'aimais pas spécialement cette enseignante. Et quand même, je me rappelle, c'est qu'elle m'a donné une image. C'était à l'époque des bons points et des images. Et elle m'a donné une image parce que j'ai fait zéro tout pile. C'est sûr que récompenser un zéro, c'est pas très glorieux. Mais pour moi, c'était quelque chose parce que j'étais toujours en dessous. Et il y a une progression quand même. Bon, ceci dit, avec le nombre de fautes que je fais à la dictée des cités, voilà, il y a encore des lacunes. Mais bon, on s'amuse bien, c'est dans un cadre différent.
On commence la lecture de la dictée. Pour les plus petits, c'est important, je le répète, parce qu'on a des candidats des fois qui se mettent la pression. On est là pour s'amuser. Je répète, levez vos mains. Je répéterai autant de fois qu'il le faudra. D'accord ? Bonne dictée et à tout à l'heure. La salle à manger. La salle à manger était une fournaise.
Bon, donc je m'appelle Roxane, j'ai 36 ans et donc je vais raconter une histoire qui s'est passée il y a un peu plus de 20 ans, quand j'avais 14-15 ans. Et ça, l'histoire a commencé quand j'étais collégienne à Toulouse. Donc j'étais dans un collège du centre-ville de Toulouse. Et la professeure de français, un matin quand on est arrivé, nous a annoncé qu'elle allait nous faire passer une dictée pour la dictée pivot. Voilà, donc on était tous ni excités ni catastrophés. On a fait cette dictée posément qui nous a occupé notre première demi-heure de cours. Et on a immédiatement oublié cette histoire jusqu'à ce que quelques mois plus tard, la professeure, donc toujours cette professeure de français en troisième, nous annonce à 5 d'entre nous de la classe que nous avions le privilège d'être nommés pour les demi-finales de la dictée pivot qui réunirait donc quelques semaines après environ 400 élèves issus de tous les collèges de la région Midi-Pyrénées. Et on s'est donc tous rendus à Blagnac pour passer cette demi-finale.
Bonsoir à tous. Eh bien, vous voici dans la salle du congrès pour la fête des champions, pour la fête des dicodeurs. Alors vous allez voir, tout de suite après le générique, on va commencer très très fort. Mais pour commencer, mesdames et messieurs, la séance est ouverte.
Bernard Pivot, qui à l'époque était vraiment un animateur vedette à la télé, et qui donc, une fois par an, organisait une grande dictée au niveau national, donc ça passait à la télé. Donc il lisait cette dictée, toujours dans un beau lieu, la dictée Pivot, ça avait toujours lieu dans une belle salle. Il lisait cette dictée, environ 200 candidats réunis. Il y avait énormément de gens en France qui faisaient la dictée en parallèle de chez eux. Et le soir, à nouveau, en direct, Pivot était de retour à la télé pour faire le corrigé de la dictée qu'il avait proposée dans l'après-midi aux téléspectateurs, et pour annoncer qui parmi les personnes qui avaient fait la dictée en direct dans la belle salle avec lui, qui gagnait. Et c'est vrai que je sais que c'était un peu comme il y avait le rendez-vous Miss France, il y avait le rendez-vous dictée pivot. Tout le monde savait que ça existait. Nous allons tous les cinq à Blagnac pour cette demi-finale. En tout cas, à un moment, j'apprends que sur les 400 collégiens présents, je suis celle qui a fait le moins de fautes, voire zéro faute, j'ai oublié. Mais en tout cas, je suis celle qui a gagné et qui va aller à la grande finale de la dictée pivot en présence de Monsieur Pivot. J'y suis arrivée habillée comme tous les jours, c'est-à-dire pas très bien, avec des vieilles docks et une jupe un peu pourrie. Et donc, ils offraient, je crois, l'aller-retour à Paris. Enfin, oui, ils offraient, oui, c'est sûr, pour moi et un parent. Donc, j'y suis montée avec ma mère. Donc, après avoir donc vraiment bien bossé cette dictée et lu tous les dictionnaires des difficultés orthographiques. Voilà, et donc, ça se fait dans cette salle du congrès. Donc, lieu assez impressionnant. Mais je me souviens, on était assis en bas, les candidats, et les parents avaient le droit d'être en haut. Donc, je me souviens de voir ma mère un peu à l'étage. On est tous assis, on nous file des crayons, des papiers. Hop, Monsieur Pivot lit sa dictée. Donc c'est un peu pareil que quand c'est le prof de français qui lit la dictée. Hein. Et je fais ma dictée avec concentration. Une fois la dictée finie, je sors. Je me dis, on verra bien. Et je pars visiter Versailles avec ma maman, puisque donc le rendez-vous suivant, c'était pour le prime time, donc à 20h30 le soir. Et là, je me souviens d'un gars qui passe dans les travées d'une salle, et qui dit « Roxane Arnold, il faut se mettre en boudran ». Monsieur Pivot est sur scène et donc appelle les gagnants les uns après les autres.
J'appelle Patricia Huss, Pascal Germani et Roxane Arnold.
Les cadets. On commence par la catégorie donc moins de 18 ans. Donc annonce le dico de bronze, le dico d'argent.
Le dico d'or. Elle a 14 ans seulement, elle vient de Toulouse, elle s'appelle Roxane Arnold, elle a commis une faute aux questions et seulement 3 à la dictée, au total 4 fautes.
Et le dico d'or est attribué à Roxane Arnold. Donc j'étais très contente, pas non plus terrassée par l'émotion, j'ai pas fait comme une actrice au César qui pleure, mais j'étais très contente et je suis allée sur scène chercher mon dico d'or, avec toujours donc ma tenue peu appropriée. Et je crois malheureusement que soit il y avait un souci dans le timing déjà par rapport au prime time, soit ma tenue a vraiment déplu à Monsieur Pivot. Mais alors que Dico de bronze et Dico d'argent ont été interviewés en direct, et bien moi j'ai pas été interrogée. J'ai juste dit merci et hop, je suis redescendue de l'estrade où j'avais eu mon Dico d'or. J'avais fait deux fautes. Et celui qui a eu le Dico d'or chez les adultes a fait les deux mêmes fautes que moi. Et donc, en fait, le gros piège, c'est qu'il avait dit une phrase qui était « Avec mes dictionnaires et mon sang d'encre, cela fait des années que j'écris des dictées, genre. » Et mon sang d'encre, je l'avais écrit, comme donc quasiment tout le monde et comme le gagnant senior, sang d'encre, comme se faire un sang d'encre, SANG, DE. Et en fait, c'était mon sang d'encre, ma centaine d'encre, expression que je connaissais même pas et qui s'emploie, paraît-il, pour les huîtres. Quand vous allez chez les cahiers, si vous voulez acheter 100 huîtres, vous dites « je voudrais un sang d'huître ». Et voilà, donc l'idée, c'est qu'il avait fallu beaucoup d'encre pour écrire toutes ces dictées, ce qui en effet était plus logique. Mais quand même, c'était vraiment très piège. Donc du coup, ça faisait deux fautes parce que ça faisait l'erreur à « sang », C-E-N-T à la place de S-A-N-G, et à « encre », auquel il fallait un S. Donc voilà, malgré mes deux fautes, j'ai gagné. Et malgré ces deux fautes, l'adulte a gagné aussi. Et puis voilà, le lendemain, c'était dimanche, retour à Toulouse, le lundi, retour au lycée, quelques félicitations des copains, du prof de français. Voilà, on va dire que pendant 15 jours, ça m'a bien porté, ça m'a rendu quand même très heureuse cette histoire. Évidemment, énorme contentement des grands-mères et des grands-pères, ce qui est aussi le but de ce type d'opération. Et au final, quelques jours après, sont arrivés chez moi toute une année de dictionnaire Larousse. En fait, c'est le grand cadeau. C'est toute une année de dictionnaire Larousse. Donc ça fait environ 180 dictionnaires, donc dictionnaire de tout. Dictionnaire du chat, du chien, du bricolage, de la marine, du Scrabble, des découvertes, tout de la couture, du maquillage. Enfin, c'est dément. Tous les dictionnaires possibles, encore sous plastique. Et une étagère pour les mettre. Voilà, donc hop, il a fallu réorganiser toute ma chambre pour faire rentrer cette étagère et mettre les dictionnaires dessus. J'en étais extrêmement heureuse et fière. Ma mère n'avait de cesse de vouloir les vendre. Et je disais toujours, non, je les garde, même si, on va dire, la moitié sont toujours restés sous plastique. Mais voilà, j'en ai quand même ouvert et j'étais contente de le faire. Et puis, bon, finalement, des années après, quand j'étais étudiante et que j'habitais plus là et que ma mère, à son tour, a déménagé, elle a fini par vendre l'étagère et tous les dictionnaires et même le dico d'or, figurez-vous.
Christo, virgule. Glace, virgule.
Tube.
Christo, virgule.
Après, tube, c'est quoi? Pesto, virgule. Je sais, c'est glace, virgule.
Verri. Verri.
Pesto, virgule.
Verri.
C'est trop dur.
Roche.
Virgule. Porcelaine, façon, virgule.
Moi, si j'ai faux ici, c'est pas grave. Parce que moi,
poterie, virgule.
Porcelaine. T'as écrit porcelaine.
Poterie, virgule. Orfèvrerie, virgule.
Vaillant.
Argenterie, virgule.
Argenterie. Après poterie, c'est quoi?
Poterie, virgule. Argenterie. Orfèvrerie, virgule. Argenterie, virgule.
C'est quoi ça?
Argenterie.
Tout étincelait et se réjouissait.
Réjouissait.
Tu veux que je répète j'énumère encore?
Oui, pour poterie, c'est
d'accord.
Tout étincelait et se
tout étincelait et se réjouissait. Point.
Après, argenterie.
Argenterie, c'est tout étincelait.
Est-ce que ça va?
Oui,
tout étincelait et se réjouissait. Point.
Tout étincelait et se réjouissait.
Les vides entre non, les vides entre les candélabres. D'accord, je vais répéter.
Cuenta l'histoire de una niña que nació del volcán. Que nació del volcán. No le tiene miedo a nada, no. Apenas aprendí a caminar, me dejaron solita en la cascada.
C'était La Dictée, un reportage de Delphine Dilly avec un coup de main de François Connac. Merci à Roxane Arnold, à Mélissa Foust et à Lorenzo Cucchiaro. Retrouvez Manu Farine et sa compagnie des poètes, mais dans quelques instants, entendez-vous l'écho Tiphaine de Rocchini.
France Culture, l'esprit d'ouverture.